histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphanie Corso.
Bonjour.
Bonjour Aude Michaud.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc archiviste au service éducatif des archives départementales du Tarn. Et aujourd'hui, j'ai encore donc le plaisir de vous accueillir pour ce qui va devenir notre rendez-vous mensuel. Alors, aujourd'hui, vous allez peut-être nous parler un tout petit peu de la précédente émission pour nous dire quel sera le thème de l'émission d'aujourd'hui.
Bien, lors de notre précédente émission, nous avions donc parlé de l'histoire du pont Vieux, de sa création à nos jours. Et donc, nous allons rester à proximité du pont aujourd'hui, sur la rive droite du Tarn, et nous allons nous intéresser à une figure du quartier de la Madeleine. L'homme dont nous allons donc à grands traits tracer le portrait aujourd'hui est né il y a presque 200 ans, comme en témoigne son acte de naissance.
Aujourd'hui, 15 mars 1816, à 3 heures du soir, par devant nous, Louis-Raymond de Rosières, maire, officier de l'état civil de la commune d'Albi, chef-lieu du département du Tarn, et comparu Joseph Maraval, chapelier, âgé de 27 ans, domicilié au faubourg du bout du pont Duc d'Angoulême du Tarn, dudit Albi, rue de Castelnau, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né le jour-dui à 9 heures du matin, de lui déclarant et de Marie-Rose Gabrielle Poujal, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de François-Joseph.
Alors, moi, déjà, je remarque que dans cet acte de naissance, on ne parle pas de pont Vieux, mais du pont Duc d'Angoulême.
Oui, le pont Duc d'Angoulême du Tarn.
C'est un nom qu'il a porté pendant un certain temps?
Oui, une période relativement courte, qui en fait est la période de la Restauration, c'est-à-dire de 1815 à 1830, en gros. Et donc, on peut trouver, en fait, parce qu'au départ, on se dit, mais est-ce qu'on est bien, on parle même, bien du même pont? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Et en fait, on peut, à travers d'autres actes, préciser, localiser plus précisément la maison dans laquelle François-Joseph Maraval, que nous appellerons dorénavant, pour que ce soit plus facile, Joseph Maraval, a grandi. Et donc, qui vient bien confirmer que ce pont du Queue d'Angoulême était le pont Vieux.
Alors, où se situait cette maison?
Alors, l'acte de succession, rédigé après le décès de son père, nous apporte quelques informations en la matière.
Aujourd'hui, 10 septembre 1844, a comparu Sieur François-Joseph Maraval, lequel, tant pour lui que comme se portant fort d'Auguste Maraval, son frère, l'un et l'autre fabricant chapelier demeurant à Albi, faubourg du bout du pont, a déclaré qu'ils sont les seuls enfants et héritiers du Sieur Joseph Maraval, quand vivait aussi fabricant chapelier au même endroit, où il est décédé, veuf de Marie-Rose Gabrielle Poujal, le 13 mars 1844, à l'âge de 55 ans, et qu'en cette qualité, ils ont recueilli les biens ci-après spécifiés, en immeuble, la maison située à Albi, faubourg du bout du pont, qui sert d'habitation à la famille, formant le numéro 313 de la section J.
Donc pour la situer, la section 313, enfin pardon, le numéro de parcelle 313 de la section J se situe au début de la rue du Tandat, juste à gauche, au bout du pont Vieux, cette petite rue qui monte.
Voilà. La rue du Tandat qui existe toujours.
Tout à fait, voilà. Et donc cet acte de succession nous apprend aussi que, comme son père, Joseph Maraval embrasse donc la carrière de chapelier. Et en 1855, il obtient une première récompense lors de l'exposition universelle de Paris. Si l'on se fie à la notice concernant l'industrie de la chapellerie à Albi, rédigée en 1878, son travail fut récompensé à 7 reprises entre 1855 et 1872, dont 2 fois lors d'expositions à l'étranger, en particulier à Londres donc en 1862 et à Amsterdam pardon, en 1869.
Donc c'est un chapelier albigeois, mais qui a déjà un talent reconnu au niveau international.
Voilà. Et l'année 1878 est une année de consécration pour Joseph Maraval. Il participe une nouvelle fois à l'exposition universelle. Lors de son passage à Paris, ce n'est pas moins de 2 médailles qu'il reçoit. À son retour à Albi, un banquet est organisé en son honneur et les hommages se multiplient. Le Républicain du Tarn, dans son édition du 10 novembre 1878, nous relate ce moment. En premier lieu, ce sont les ouvriers de Joseph Maraval qui s'expriment en la personne de Joseph Chay.
Messieurs, il y a peu de jours, j'étais désigné par vous tous pour féliciter notre patron, Monsieur Maraval, à son arrivée de Paris, de la double récompense qui venait de lui être décernée par le jury et par un ministre républicain à l'occasion de l'exposition universelle. Vous m'aviez confié la mission de lui exprimer notre reconnaissance pour les services qu'il a rendus à notre ville, en y créant l'industrie de la chapellerie. Je crois m'être acquitté de cette tâche selon nos communs désirs. Et je tiens à vous remercier de m'avoir choisi pour votre interprète dans cette mémorable circonstance. Aujourd'hui, l'honneur de porter à nouveau la parole au nom du personnel de la maison m'échoit par droit d'ancienneté et je m'en réjouis.
S'exprimeront ensuite les élus et les fabricants de chapeaux, dont on peut signaler au passage que beaucoup sont d'ailleurs issus des ateliers Maraval. Comme Joseph Maraval le souligne lui-même, l'homme que l'on consacre ce jour-là est le fondateur de l'industrie de la chapellerie.
Nous personnifions l'industrie albigeoise et c'est sa fête que nous célébrons. Qui aurait pu prévoir, il y a 45 ans, que celui qui vous parle, voyageant avec sa canne de compagnon, cherchant à s'instruire dans les différentes villes où le chapeau se fabriquait, serait devenu le fondateur de cette industrie qui a fait la fortune de sa ville natale. Certes, s'il m'a fallu soutenir des luttes contre le préjugé qui existait dans l'esprit de l'ouvrier au sujet des machines qui devaient donner de si bons résultats, si j'ai dû sacrifier une large part de mes bénéfices pour réaliser mon rêve qui fut celui non seulement de créer cette industrie, mais aussi et surtout de lui donner les moyens de vivre et de se développer. Je vous le dis hautement, je considère que la récompense dont j'ai été honorée dépasse la somme de mes sacrifices.
Maraval, bravant les craintes des ouvriers, a en effet su investir dans les machines. Mais des transactions effectuées durant l'été 1863 portant non pas sur des machines, mais sur des locaux, témoigne de la volonté de Joseph Maraval de développer son activité et pourrait bien marquer le passage justement de la manufacture à l'industrie de la chapellerie.
Donc déjà, c'était quand même une industrie importante, qui prenait de l'importance dans le quartier.
Qui prenait de l'importance, voilà. Et il a fait les investissements nécessaires pour qu'elle se développe.
Alors de quelle façon, justement, il va développer cette activité ?
En termes de locaux, donc il va louer l'usine hydraulique de La Motte, consentie donc cette location par la société des moulins d'Albi, qui se trouvait alors en situation déficitaire, donc ça les arrangeait aussi un petit peu. Et puis il y a aussi un bail qui est passé devant Louis-Henri Angélique Cavalier, notaire à Albi, qui nous apprend que le 23 janvier 1863, donc, ont comparu
Monsieur Jean-François Joseph Monestier, propriétaire demeurant à Albi, faubourg du Bout du Pont d'une part, et Monsieur François-Joseph Maraval, négociant, demeurant aussi à Albi, faubourg du Bout du Pont d'autre part, entre lesquels comparant, il a été convenu et fait ce qui suit. Monsieur Monestier bail à loyer à Monsieur Maraval pour l'espace de 10 ans, qui commenceront à courir le 1er avril 1863. Une maison, enclos contigu et toutes les dépendances que Monsieur Monestier a et possède à Albi, faubourg du Bout du Pont, sans aucune exception ni réserve dans leur état actuel.
Une mention, justement, nous informe des projets de Joseph Maraval.
Le dit bail est fait aux clauses et conditions suivantes. Attendu que Monsieur Maraval se propose d'établir une fabrique de chapellerie dans les lieux baillés à loyer, il aura la faculté d'approprier les bâtisses existantes et d'en élever de nouvelles. Toute réparation de quelque nature qu'elle soit restant à sa charge.
Enfin, relevons la dernière clause du contrat.
Pendant toute la durée du bail et jusqu'à l'expiration, M. Maraval aura toujours la faculté de devenir acquéreur des immeubles donnés à loyer, au prix de 60 000 francs que M. Maraval paiera, le cas échéant, à M. Monestier en bonne espèce d'or ou d'argent.
Alors nous allons peut-être faire une petite pause musicale. Nous retrouverons Monsieur Maraval dans ses nouveaux locaux avec La Talbero.
La capello, la cappetto, il tramperi, il cappello, la cappetto.
C'était donc Céline Ricard de la Talbère qui nous chantait un branle, une danse traditionnelle dans laquelle elle parle de loup capelle, donc le chapeau. Pour en revenir donc à Monsieur Maraval qui va maintenant donc pouvoir mettre en place toute sa nouvelle industrie de chapellerie dans ses nouveaux locaux.
Tout à fait. Alors ce que l'on voit, c'est donc... En effet, cet acte de location prévoyait déjà la possibilité de l'acquisition et cette acquisition interviendra donc comme prévu initialement 10 ans plus tard. Et donc nous avons la transcription d'un acte enregistré aux hypothèques le 4 avril 1873 qui montre donc que pour la somme de 60 000 francs, Joseph Maraval devient propriétaire de ces fameux locaux qu'il louait à M. Monestier. Cet acte nous permet de localiser plus précisément le lieu où était installée la fabrique de chapeaux. En effet, la description fait état d'une maison avec enclos, contigu, hangar et toutes ses dépendances situées rue de la Madeleine et contigu donc à l'église du même nom. Il suffit d'ailleurs d'étudier le cadastre pour constater le capital foncier dont disposait Joseph Maraval et qui d'ailleurs d'une certaine manière témoigne de sa prospérité.
Donc dans le quartier, ces bâtiments prennent quand même une grande place. En fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, il y avait d'autres propriétés un petit peu sur Albi, mais on va s'intéresser, nous, plus particulièrement, on va rester sur le quartier de la Madeleine, où il possédait 6 parcelles donc à l'angle de la rue du Tandat et de la rue de Castelnau, qui donc, est aujourd'hui la rue Rinaldi, donc là où il y avait la maison de famille, là où il a grandi. La rue de la Madeleine, dans la rue de la Madeleine, il possédait les parcelles qui, donc, en gros, allaient après l'église jusqu'à celle confrontant l'ancienne caserne, donc des locaux assez importants. Et puis, donc, justement, on va faire une petite parenthèse et sortir de ce quartier de la Madeleine pour signaler aux auditeurs que l'étude des documents d'archives réserve parfois quelques surprises. Et qu'en étudiant le cadastre, on s'aperçoit que Joseph Maraval était aussi propriétaire d'un théâtre qui, lui, se situait place du Manège, qui est aujourd'hui la place Jean Jaurès. Donc, là où il a...
Pas loin de la place du Vigan.
Voilà, c'est ça.
Mm-hmm. Et donc ça, on pense que c'était une propriété qui était antérieure...
A priori, non. On pense qu'il l'a fait construire. En même temps, voilà, aussi. Qu'il l'a fait construire et qu'elle aurait été détruite au moment où il y aurait eu le comblement des fossés. Voilà, à peu mm-hmm. près. Donc, on fait part de cette mention parce que quand on étudié le cadastre, nous, en effet, on s'intéressait plutôt à cette section sur la Madeleine. Mais on trouvait voilà, l'anecdote assez intéressante. Donc, oui, un café et un théâtre, place du Manège, qui appartenait à ce monsieur et qui montre donc une certaine, on peut penser quand même, une certaine aisance financière. Enfin bon, revenons à son industrie.
Oui, qui est prospère maintenant. Bon.
Voilà.
Alors, comme tout propriétaire qui a une industrie prospère, il va peut-être s'attirer des jalousies, des rivalités.
Voilà, c'est-à-dire que en effet, Joseph Maraval a dû faire face à quelques réticences. Alors on l'a vu, il y a eu les ouvriers d'abord quand il s'est agi d'installer les machines dans les ateliers. Et puis il y a aussi donc les protestations des riverains de la manufacture. Et donc on a cette plainte qui a été rédigée en juillet 1866.
Les sous-signés, habitant la rue de la Madeleine, faubourg du Pont, ont l'honneur de vous exposer que le sieur Maraval, négociant en chapellerie, verse ou fait verser tous les jours, de 5 à 6 heures du soir, dans la dite rue, un plein baquet d'eau corrompue. Cette eau, provenant du lavage des peaux de lapin, est tellement putréfiée et répand une infection si forte que les propriétaires habitant cette rue sont forcés de tenir fermées leurs fenêtres de leur maison. Cette odeur infecte dure toute la nuit et les passants eux-mêmes ne peuvent circuler dans cette rue sans être contraints de fermer leur nez.
Donc on a déjà un détail là, il utilise des peaux de lapin pour faire des chapeaux.
Voilà, tout à fait. Et aussi sur
et
donc
ça crée quand même des nuisances, on comprend, hein, on comprend les riverains.
Et alors on peut penser quand même que cette plainte est fondée puisque sur cette même plainte figure une note manuscrite du commissaire de police qui vient donc corroborer les faits.
La majeure partie des chapeliers de la ville déverse les eaux de teinture ou les résidus des foules dans les rigoles des rues. Je ne crois pas que ces eaux soient nuisibles à la salubrité, mais elles ont le grave inconvénient de maintenir les rues dans un état de malpropreté dégoûtant et surtout de détériorer les vêtements des habitants. Ces mêmes industries, notamment M. Maraval, déversent aussi dans les rues les eaux provenant des lavages des pots. les eaux sont corrompues d'une odeur putride et leur évacuation sur la voie publique ne saurait être plus longuement tolérée. Il faudrait un arrêté portant interdiction à tous ces industriels et autres de verser dans les rues les eaux provenant de leurs industries.
Alors, on a déjà aussi là des détails. Hein. On sait donc, ça c'était depuis le Moyen-Âge qu'on déversait dans les rues, hein. mais on pense aussi aux vêtements, puisqu'il dit que les vêtements sont détériorés, donc ce sont les femmes qui portent des robes jusqu'aux pieds.
Voilà, tout à fait, on peut penser en effet avec les teintures et les
saletés. C'est intéressant d'avoir des détails comme ça dans des actes. Hein.
Voilà, c'est ces petits détails qui en effet viennent, qui apportent aussi une image quelque part de ce vécu. Tout à fait. Et alors donc, suite aux plaintes récurrentes qui sont émises par ces habitants, certains habitants du quartier, pas tous, on le verra, le conseil d'hygiène et de salubrité, se prononce pour le transfert de l'atelier de sécrétage des pots hors du quartier et indique aussi quelques aménagements permettant le maintien de la fabrique de chapeaux tout en assurant la propreté des rues.
Et alors, est-ce que ces suggestions vont être suivies des faits ?
Alors, justement, ça va mettre du temps avant de... Enfin, en tout cas, ces habitants qui protestent trouvent que ça prend du temps. Et donc, ils réitèrent leur plainte auprès du préfet le 23 décembre 1866 et s'appuyant sur cette décision du Conseil d'hygiène et de salubrité.
Nous avons appris que depuis plus d'un mois, vous aviez fait parvenir à Monsieur le maire d'Albi les dispositions que vous aviez cru devoir adopter à la suite de notre réclamation sur l'établissement de la pelleterie insalubre et non autorisée de Monsieur Joseph Maraval au faubourg du Pont. Il y a 2 ans au moins que cette affaire se prolonge sans plus d'égard à nos justes plaintes et nous avions cru que notre supplique du commencement de novembre dernier y mettrait enfin un terme inévitable. Mais tout reste dans l'état. L'infection se perpétue dans notre quartier, la police locale n'agit point. Que penser de cette immobilité ? Est-ce oubli ? Est-ce une mauvaise volonté ? Nous allons à Monsieur le maire, nous entendons de sa bouche toutes les raisons de Monsieur Maraval pour se soustraire le plus longtemps possible à l'obligation qui lui est imposée de cesser de compromettre la santé publique. Nous voyons que pour ménager les intérêts du fabricant, membre du conseil municipal, c'est un parti de retarder le plus longtemps possible l'observation des prescriptions de l'autorité. Il n'est pas à propos de redire tout ce qui nous a été dit, mais comme un dernier moyen, il nous reste de vous supplier, monsieur le préfet, de vouloir bien nous indiquer quelle voie nous devons suivre pour parvenir à notre but, si bien marqué par la commission hygiénique et par vos propres ordres.
Nous voyons bien quand même déjà que ce soit n'importe quelle époque, hein, quand il y a des réclamations comme ça, elles traînent en longueur et puis on s'aperçoit peut-être qu'il y a un parti pris à cause d'une raison particulière.
On ne sait pas très bien, on voit que les riverains mettent en cause le fait que, comme il est conseiller municipal, et bien finalement on n'entendrait pas leurs plaintes. Et puis on va voir que, mine de rien, on ne peut pas faire abstraction du fait que cette industrie elle génère de l'activité, de l'emploi. Et d'ailleurs, donc, lorsque en 1867, Joseph Maraval demande l'autorisation de maintenir dans la rue de la Madeleine sa manufacture de chapeaux et son atelier de sécrétage, donc ses voisins mécontents renouvellent lors de l'enquête les plaintes deux fois exprimées, et puis donc celles-ci seront modérées par de nombreux signataires qui vont venir pour, au contraire, j'allais dire, pas forcément appuyer, mais en tout cas dire que eux, ça les dérange pas, bien au contraire.
Et juste une question, est-ce que c'était une coutume qu'un industriel doive demander une autorisation de maintenir son activité ?
Alors son industrie, son bâtiment faisait partie des bâtiments industriels qui devaient faire une demande en tant que bâtiment insalubre, du fait justement de ses activités.
Ah voilà, c'était pour cette
raison. Donc certains bâtiments étaient répertoriés et devaient avoir une autorisation préfectorale pour leur fonctionnement. Donc c'est dans ce cas-là qu'en 1867, exactement, on a ce dossier de procédure qui vient nous informer un petit peu justement de ces tensions qui existaient dans le quartier. A priori, avec un nombre restreint de riverains, mais qui ont été quand même très actifs, parce que dans le dossier, on trouve de nombreuses lettres, justement, au fur et à mesure des démarches et des décisions prises, ils n'ont pas lâché l'affaire.
Pas lâché, oui.
Voilà, et donc jusqu'au bout.
Et alors, ce conflit, est-ce qu'il a été résolu finalement ?
Alors, parler d'un conflit, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que lors de cette enquête, l'industriel Joseph Maraval reçoit le soutien du maire d'Albi, qui, dans un courrier qu'il va adresser au préfet du Tarn le 12 mars 1867, justement pour appuyer sa demande d'autorisation, va opposer le fait qu'il n'y a finalement que 18 habitants du faubourg qui se sont manifestés contre. Donc, comme je vous le disais, 18, mais très actifs, et qui, depuis de nombreuses années, entretiennent une correspondance avec le préfet et les autres services pour essayer de faire valoir, justement, cet inconfort, voilà. Et de l'autre côté, donc, il met aussi dans la balance les 142 signatures des habitants du quartier qui, quelque part, donc, viennent appuyer, enfin voilà, l'autorisation. Mmh. Et donc le maire, qui dans ce courrier qui est assez long, Monsieur Bermond, donc face à l'expression, oppose, on va dire, l'intérêt particulier et appelle à l'intérêt général.
Monsieur Maraval a créé à Albi une manufacture dans laquelle il emploie plus de 400 ouvriers. Il a donné à sa fabrique une grande extension et le succès a couronné son œuvre. Son initiative a réveillé l'esprit industriel très endormi de notre cité, et je ne crois pas nécessaire d'affirmer qu'il impose à l'intérêt général que des entreprises de cette nature soient encouragées.
Le maire est même allé jusqu'à dresser la liste nominative des ateliers de sécrétage dans les villes de Paris et de Toulouse, soulignant leur implantation au cœur des villes. C'est-à-dire que dans ce dossier de procédure, on va trouver la liste avec les noms des ateliers, leur emplacement dans les différents quartiers. Voilà, tout ça pour appuyer en disant, enfin voilà, que quand même, puisque ça se fait dans les grandes villes, on peut très bien, c'est une pratique courante quelque part.
Mmh. En dehors des nuisances, bon, d'odeur, c'était quand même, il avait quelque part raison, parce que c'était quand même, il avait généré des emplois.
Oui, et puis alors,
il avait
assez
développé
rigolo,
cette industrie quand même.
Ce qui est assez drôle finalement dans ce courrier aussi du maire, c'est qu'il explique que bon, il y a en effet peut-être certains aménagements à faire, mais en disant que la position de l'atelier, finalement, enfin, les odeurs ne peuvent pas arriver, jusque dans la rue. Enfin bon, c'est voilà. Donc,
oui,
c'est,
bon.
On a déjà connu ça encore aujourd'hui.
Oui,
parfois, on nous explique
oui.
non, les nuages s'arrêtent aux frontières. Bon,
voilà,
donc
oui.
Déjà à l'époque, c'était pratiqué. C'est assez drôle, je vous dis, parfois, on trouve comme ça des petites choses assez, assez drôles.
Alors, est-ce qu'il obtient finalement l'autorisation de maintenir son activité ?
Oui, tout à fait. Et donc, en effet, l'autorisation, il y aura quelques obligations par rapport à son fonctionnement, mais Joseph Maraval obtient l'autorisation préfectorale de maintenir son activité. Et alors, ce qui est intéressant, donc là aussi, il faut tenir compte du contexte, c'est que cet épisode s'inscrit au moment où la chapellerie, quand même, représente l'activité essentielle d'Albi. Donc, en termes d'emploi, c'est important.
Alors là, il y avait beaucoup d'autres industriels.
Alors industriels, pas forcément, mais il y avait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de ces ouvriers qui ont créé leur propre atelier, leur propre entreprise.
Ah voilà, c'est là qu'est le développement.
Voilà, tout à fait. Et en fait, donc à ce moment-là, c'est aussi facteur d'essor démographique pour la ville, donc c'est important. Et d'ailleurs, ce qui fera, alors sur les causes du déclin qui s'amorce dans les années 1880 de la chapellerie à Albi, il y a justement ce côté un peu, le fait que c'était un peu morcelé, c'est-à-dire qu'il y a eu ces petites entreprises et petit à petit, donc les choses ont décliné, les chapeliers sont aussi partis dans d'autres départements, donc à partir de 1880, on voit l'activité décliner à Albi.
Mmh. Voilà. Mais l'activité principale, est-ce qu'elle était cantonnée sur le quartier de la Madeleine ou est-ce qu'il y avait d'autres quartiers dans lesquels...
Alors on a trouvé traces de chapeliers du côté de Saint-Martin, Croix-Verte, donc il y avait d'autres ateliers. Mais après, le fait qu'il y ait besoin d'eau, etc., c'est vrai que il y avait beaucoup d'industries, de toute façon, sur la rive. Les industries, essentiellement, étaient situées sur la rive droite du Tarn l'accès à la rivière. Donc, je vous le disais, le déclin à partir de 1880. Mais après, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, Joseph Maraval, c'est en dehors des considérations matérielles et économiques, c'est aussi l'homme, ses convictions, ses engagements politiques, ses engagements publics.
Et ça, vous le trouvez aussi dans les archives, avez...
Oui, et on a quelques
documents.
Voilà, on a quelques documents, et aussi à partir des journaux, la presse au 19e est très, très, j'allais dire, très très virulente, enfin au niveau voilà des enjeux politiques, des batailles politiques très partie prenante dans l'affaire, donc c'est aussi intéressant. Et d'ailleurs à ce propos, le Républicain du Tarn dans son édition du 10 novembre 1878 qualifiera Joseph Maraval de patriarche de la démocratie. Alors c'est pas rien, patriarche de la démocratie.
C'est sûr. Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et du coup donc c'est à cet aspect de cet homme qu'on souhaiterait la prochaine fois s'intéresser et regarder un peu plus précisément justement ses engagements. Il faut savoir que à la fois il a été très impliqué dans la vie publique en tant que conseiller municipal et il a même été sur une très courte période maire de la ville, mais qu'il a aussi été à la maison, il y a des traces de Joseph Maraval dans le registre d'écrou de la maison d'arrêt d'Albi puisqu'il a été emprisonné. Donc voilà. Et puis
donc c'est un personnage très intéressant que vous nous présenterez donc la prochaine fois.
Voilà, voilà. Cet aspect après la partie, j'allais dire plus entrepreneuriale et industrielle, l'aspect plutôt des engagements et des convictions de l'homme. Voilà.
Merci Stéphanie Corso, merci Aude Michaud. Je rappelle que vous êtes archiviste aux archives départementales du Tarn. À la réalisation technique, aujourd'hui c'était Maï. Alors nous allons nous quitter avec une autre chanson qui parle aussi de chapeau, hein, Luca Pelun des Paglio, cette fois-ci de paille.
Passa sulla planchetta, lo per malisa, farò sul tuo vado di là, io lo so, te io son moria, farò sul tuo vado di là, io lo so, te io son moria, passa sulla planchetta, lo per malisa, passa sulla planchetta, lo per malisa, farò sul tuo vado di là, io lo so, te io son moria, farò sul tuo vado di là, io lo so, te io son moria, passa sulla planchetta, lo per malisa. Malisa, passa sulla planchetta, ben malisa, farò sul tuo vado di là, io lo so, te lo so moria, farò sul tuo vado di là, io lo so, te lo so moria. Capelù de paio, l'immacolo pudu a capelù, l'immacolo pudu a capelù de paio, l'immacolo pudu a capelù, capelù de paio, l'immacolo cordo, capelù de paio, l'immacolo cordo, l'immacolo pudu a capelù de paio, l'immacolo pudu a capelù, l'immacolo pudu a capelù de paio, l'immacolo pudu a capelù, capelù de paio, l'immacolo cordo, capelù de paio, l'immacolo cordo, l'immacolo
histoire locale. Histoire locale. La vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.